Au-delà du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, repenser la place de l'homme dans le cycle du vivant, développer la coopération et l'empathie entre les hommes, réinventer une société autour du respect de la planète et de tous ses habitants, ce sont les ambitions du Rassemblement des écologistes pour le vivant, un nouveau parti politique qui vient d'être lancé en France pour, je cite, « répondre aux manquements des partis écologistes actuels ». Les idéologies sont belles, mais est-ce que créer un énième parti politique est la bonne solution pour les défendre? Nous en parlerons avec le journaliste Émeric Caron, l'un des fondateurs de ce mouvement. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Je vous dis au revoir. Merci, mes amis.
C'était le 19 avril 1974. René Dumont, candidat écologiste à l'élection présidentielle, tentait de sensibiliser les téléspectateurs au gaspillage. Nous avons changé de siècle et ses propos n'ont jamais été autant d'actualité. La preuve, l'actualité met en lumière certaines villes qui pourraient être obligées de fermer le robinet par manque d'eau dans les prochains mois. On en parle avec notre invité Guy Fradin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome et des eaux et forêts. Vous avez exercé de nombreuses responsabilités institutionnelle dans ces deux domaines. Et aujourd'hui, vous êtes porte-parole du Conseil mondial de l'eau, que je vous laisse nous présenter en quelques mots.
Le Conseil mondial de l'eau, c'est une organisation non gouvernementale qui vient de fêter son 20e anniversaire, qui est installée à Marseille et qui a pour objet de défendre la cause de l'eau, et ce, à un niveau aussi élevé que possible, en termes politiques, si possible, mais aussi en termes techniques. C'est une organisation qui comporte environ 350 membres et qui vont d'une petite ONG à des États, des ministères et des organisations internationales telles que la FAO, la Banque mondiale, l'UNESCO. On y trouve aussi des entreprises privées, on y trouve des ONG, bien entendu. Donc, l'ensemble des partenaires, finalement, du monde de l'eau peuvent se retrouver au sein de ce conseil qui a véritablement la vocation de défendre, promouvoir des politiques de l'eau qui puissent faire face aux défis, évidemment, de l'accès à l'eau potable, principalement, et puis de tous les défis qui tournent autour de la thématique de l'eau.
Et il y a des membres de plus de 50 pays différents dans ce Conseil mondial de l'eau.
C'est
alors,
exact.
60% de notre corps est constitué d'eau, c'est donc une ressource essentielle pour chacun d'entre nous, mais ce n'est pas le fait de boire finalement qui consomme le plus d'eau, c'est plutôt le fait de nous nourrir.
Et oui, effectivement, globalement, l'agriculture est un gros consommateur d'eau, en moyenne 70%, ça dépend évidemment des endroits. Par ailleurs, évidemment, les activités économiques, les industries, et puis bien sûr le consommateur pour la boisson, l'hygiène, la santé. Mais finalement, c'est une part relativement faible de cette consommation.
Oui, c'est 10% uniquement.
C'est exact. Oui.
Et il y a, il faut le rappeler, parce qu'on est sur une planète bleue, hein, avec
oui.
les deux tiers qui ont de l'eau. Donc on se dit, ben, finalement, il y a de l'eau en abondance sur
oui.
cette planète, mais elle est
oui.
essentiellement salée. Et l'eau
oui.
douce dont nous avons besoin est très peu disponible finalement.
Tout à fait. C'est de l'ordre de 3% en fait, ce qui est disponible. La planète est bleue, mais c'est de l'eau salée. Néanmoins, quand même, si on raisonne au niveau planétaire, on est dans le cadre d'une eau circulante, d'un grand cycle de l'eau. Donc la planète ne manque pas d'eau, finalement, malgré les multiples atteintes que les activités de l'homme portent à la qualité de l'eau, notamment. Et puis, on a cette disponibilité d'eau salée qui est très importante, quand même, parce que n'oublions pas que nous savons aujourd'hui dessaler l'eau de mer. Il y a des techniques qui le permettent, à des coûts qui sont tout à fait raisonnables.
C'est de moins en moins cher, mais ça reste cher, quand même.
C'est pas très différent du coût du traitement d'une eau usée, rendre une eau usée propre, potable.
D'accord.
Donc, en fait, pour le futur, ça veut dire quand même... D'autant plus que les populations, on en dira peut-être un mot, vont se surbaniser et probablement très proches des côtes, des mers. On aura quand même de l'eau à disponibilité. Et un certain nombre de villes, d'ailleurs, notamment du bord de la Méditerranée, ont installé ou vont installer, je pense qu'on en parle à Cape Town, des usines de désalination.
Oui, alors après, tout cela demande de l'énergie. Quel type d'énergie ?
Et effectivement, quand on envisage ces problématiques, immédiatement se pose derrière la question du financement. Et donc on peut imaginer d'avoir dans le futur, non seulement des problématiques d'accès à l'eau, je dirais en termes techniques, mais aussi en termes financiers. Évidemment, les pays riches ou les gens riches seront toujours mieux placés pour accéder à l'eau que ceux qui n'en ont pas. C'est une question d'ailleurs qui était déjà posée à Cape Town.
Alors, vous dites que c'est la manière dont nous utilisons l'eau qui est en cause. C'est vrai parce que sa quantité, finalement, elle dépend du cycle de l'eau. On l'apprend à l'école, hein, en classe élémentaire, le cycle de l'eau. Lui, il n'a pas évolué depuis les dinosaures, c'est le même. Hein.
Tout à fait. Et alors, il fonctionne dans ses grandes lignes, il fonctionne dans la même manière. L'homme intervient, il le perturbe à certains endroits, il s'inscrit dedans à d'autres endroits. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la question de l'accès à l'eau, de la disponibilité de cette ressource, se pose différemment selon les régions, les grandes régions, les pays, les territoires. Et la question ne se pose pas de la même manière en Afrique, par exemple, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique équatoriale. Elle ne se pose pas de la même manière entre le Maroc et le Yémen. On voit bien que ces pays, en fonction de leur climat, de leur sol, du bioclimat dont ils disposent et des politiques qu'ils mettent en œuvre, se trouvent dans des situations différentes.
En tout cas, il y a des situations aujourd'hui qui sont proches de la catastrophe. La ville du Cap, hein, vous en parliez, en Afrique du Sud, fait face aujourd'hui à sa pire sécheresse depuis un siècle. Après trois saisons très sèches, elle dépend principalement de six barrages pour son approvisionnement. Mais ses réserves sont très basses, moins de 25% actuellement. Et le jour où elles atteindront 13,5%, eh bien, il faudra couper l'eau dans une grande partie de la municipalité qui compte 4 millions d'habitants. Pour prévenir ce jour zéro, la ville a mis en place des restrictions sur l'eau du robinet. Pas plus de 50 litres par personne et par jour au lieu des 87 consommés habituellement. Les habitants ont donc dû s'adapter pour préserver cette ressource vitale, comme l'a constaté notre correspondante Lisa Fabian.
La foule qui se presse près de la source naturelle de Newlands donne un aperçu de ce que pourrait être le jour zéro au Cap. Quand les robinets ne couleront plus, les habitants devront faire la queue devant l'un des 200 points de distribution d'eau qui seront mis en service par la ville. Pour l'instant, ce jour zéro est prévu pour la mi-mai, mais avec des efforts, il pourrait être encore repoussé jusqu'aux premières pluies. Au bord de la route, Nicole reprend son souffle, des bidons pleins à ses pieds.
Jusque-là, nous n'avons jamais eu de coupure d'eau. Mais vous savez, mieux vaut prévoir qu'affronter le chaos. Donc nous venons chaque semaine près de cette source naturelle pour récupérer autant de bidons de 5 litres que possible. Là, aujourd'hui, j'ai à peu près 55 litres. C'est juste pour essayer de conserver l'eau du robinet. Chez nous, nous avons une citerne de 1000 litres pour récupérer l'eau de pluie. Elle nous sert à nous nettoyer et nous laver. Pour boire, nous achetons beaucoup, beaucoup de bouteilles et nous essayons de faire des stocks, juste au cas où.
Depuis le 1er février, l'eau du robinet est limitée à 50 litres par jour et par personne, sous peine d'une très grosse amende. Alors les habitants du Cap s'adaptent. Ils échangent leurs astuces pour économiser le précieux liquide. André Swart est l'un des administrateurs du groupe Facebook Watershedding Western Cape qui réunit près de 150 000 personnes autour de cette question.
La nouvelle réalité en Afrique du Sud, c'est la sécheresse. J'ai commencé à regarder l'eau différemment. Ce n'est plus possible d'ouvrir un robinet sans penser « Je suis en train d'utiliser de l'eau, il faut que je referme le robinet très vite ». J'ai par exemple installé des régulateurs sur mes robinets. Ma piscine est couverte pour que l'eau ne s'évapore pas.
Dans les townships qui entourent la ville, l'eau courante est depuis toujours un luxe. Ces immenses bidonvilles concentrent la plus grande partie de la population du Cap, des habitants pauvres, majoritairement noirs et métis. Mais ceux-ci ne comptent que pour 5% de la consommation totale d'eau du Cap. Félina vit dans une cabane de tôle avec ses 4 enfants et son mari.
Nous devons marcher en bas de la rue pour aller chercher notre eau. Là-bas, le robinet public fonctionne toujours. Mais ceux qui sont plus près de chez nous sont souvent coupés. C'est compliqué. Chaque jour, je ramène 40 litres environ.
Pour faire face à la crise de l'eau, la ville du Cap doit s'adapter très rapidement, mais cela nécessite d'énormes investissements. Kirsty Carden est spécialiste d'ingénierie civile pour le Future Water Institute à l'Université du Cap.
Pour tenter de repousser le jour zéro, la seule solution qu'avait la ville, c'était de pousser les gens à économiser l'eau. Sur le long terme, évidemment, la diversification de l'approvisionnement est essentielle. Nous devons nous sortir de notre dépendance à l'eau de surface, que ce soit en exploitant les ressources des nappes phréatiques, en récupérant l'eau de pluie ou en traitant l'eau des égouts pour qu'elle soit potable. Et bien sûr, avec la désalinisation. Même si nous espérons que le gouvernement gouvernement ne construira pas de très grandes centrales de désalinisation qui sont très gourmandes en énergie.
L'État s'est engagé il y a peu à déclarer la sécheresse qui touche le Cap-Oriental catastrophe nationale, ce qui devrait permettre de débloquer des fonds pour améliorer l'infrastructure. Lisa Fabian, de retour du Cap, RFI.
Guy Fradin sont évidemment les plus pauvres hein, qui souffrent le plus, on l'entend toujours bien dans ce reportage. Il y a ceux qui couvrent leur piscine pour ne pas qu'elle s'évapore et les autres qui ont du mal à avoir de l'eau pour les besoins alimentaires.
Absolument, oui. Mais ça, c'est une constatation qui est faite depuis longtemps au niveau international, qui est d'ailleurs vraie aussi en termes d'accès à la nourriture. Les plus pauvres sont toujours dans la situation la plus difficile d'accès à ces biens de base.
Et donc, il y a d'autres villes dans le cas du Cap aujourd'hui ?
Ben, je crois qu'il y a des difficultés à Sao Paulo. Je pense que le Brésil aussi a connu, est en train de connaître, cet État en particulier, une période de sécheresse tout à fait importante. Mais c'est le cas aussi au Yémen. Alors il y a des interactions évidemment avec les situations de guerre. Hein. Mais enfin là aussi on est dans des régions où l'évolution climatique, la situation climatique met la disponibilité à la ressource en eau extrêmement délicate et aléatoire.
Voilà, et globalement, les changements climatiques vont évidemment aggraver la situation.
Oui, on en parle. Que dit le GIEC. Oui.
Ouais, on en parle juste après une petite pause musicale.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de Guy Fradin, porte-parole du Conseil mondial de l'eau, et nous parlons de ces villes qui sont obligées de fermer les robinets. Faute de ressources en eau, nous étions au Cap en Afrique du Sud tout à l'heure. Direction maintenant Nairobi, la capitale du Kenya, a soif. Elle a soif depuis des mois, en cause les pluies de fin 2017 qui ont été décevantes. La compagnie de gestion des eaux a donc instauré des rationnements. Il manquerait 200 000 mètres cubes d'eau par jour pour subvenir aux besoins de ces 4 millions d'habitants, comme l'a constaté notre correspondant Sébastien Nemet.
On est branché au réseau public. Vous voyez, aujourd'hui, la pression est très faible. Des fois, les clients doivent même revenir le lendemain ou chercher l'eau dans un autre quartier.
Avec l'association Caribbean Youth, Félix Owonji gère un réservoir qui alimente une partie du secteur. Mais le dimanche et le lundi, la compagnie d'eau locale coupe tout pour cause de restrictions. Selon la NCWSC, à cause de la sécheresse, le barrage de Tika qui alimente la ville n'atteint même pas la moitié de sa capacité. Il manquerait 200 000 mètres cubes d'eau par jour pour subvenir aux besoins de Nairobi et de ses quelques 4 millions d'habitants. Richard Kéroui est venu remplir ses bidons. Il subit, comme les autres, les restrictions.
Il n'y a pas d'eau du robinet. On utilise cette eau pour tout, boire, nettoyer. C'est notre seule source. En une semaine, j'ai besoin de 200 litres. Donc quand il y a restriction, c'est un vrai souci. On doit marcher 2 km pour aller à un autre site. On essaie d'anticiper, on stocke dans la semaine. En plus, le prix augmente à cause de la forte demande.
Plus loin, un homme utilise un autre réservoir pour laver sa voiture. La station est gérée par des jeunes du quartier. Il paye 10 000 shillings par mois à la ville pour utiliser le réseau. Ashford Moesso gère le site. Il constate la détresse des gens de Kibera.
C'est un vrai fardeau. Si vous avez un litre pour laver les vêtements de votre famille, pour boire, comment vous faites? C'est très dur. Ici, vous avez des gens qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Ils ne peuvent pas se laver car ils gardent leur argent pour se nourrir.
C'est le cas de Mahmoud Nassib Noah, 21 ans, qui essaie de se rationner avec sa famille.
Parfois, vous passez 3 jours sans eau. Forcément, on se lave moins, on économise, on boit moins. Pour me désaltérer, je vais dans un autre quartier.
La compagnie d'eau assure que les restrictions sont alternées et équitables entre quartiers. Les endroits sensibles, comme le centre-ville, les hôpitaux, l'aéroport international, ne subiraient pas de rationnement. Mais pour Humphrey Djogou, habitant de Kibera, on n'aurait jamais dû en arriver là.
Il faut investir beaucoup plus dans les barrages et les puits. Tous les ans, on sait qu'il y a une sécheresse. La criminalité va augmenter. Le gouvernement n'a pas la capacité pour contrôler la hausse du prix de l'eau. Attendez février, des gens vont mourir ici à Kibera. Il y aura des maladies, les gens se mettront à boire l'eau des égouts.
Très pessimiste, Humphrey Djogou dit qu'il faut attendre les pluies d'avril. Et là encore, Kibera subira un autre problème, celui des inondations. Sébastien Hemet, Nairobi, RFI.
Et oui, Guy Franin, c'est là où c'est assez finalement paradoxal. Les villes, là, Sébastien Hemet, enfin, dans le reportage, on l'entendait, parlent d'inondations après la sécheresse. C'est-à-dire on passe d'un extrême à l'autre. Et c'est vrai que les prévisions d'ici 2030, hein, c'est 40% de la population mondiale qui sera victime de sécheresse et 20% d'inondations. Tout cela est assez paradoxal et les changements climatiques vont aggraver tout cela.
Oui, ça peut paraître paradoxal. Ça l'est pas forcément. Effectivement, le changement climatique qui nous annonce des aléas beaucoup plus erratiques qu'avant, donc des épisodes extrêmes plus forts, peut-être décalés par rapport aux habitudes qu'on avait ou les moments où on les attendait, et puis des alternances subites. Effectivement, après ces sécheresses, des épisodes pluvieux forts vont facilement provoquer des inondations parce que les sols ne vont pas être capables d'absorber l'eau immédiatement. On n'aura pas des pluies douces qui vont pénétrer tranquillement. Non, ça va ruisseler immédiatement sur des sols et faciliter ce type d'événement. Donc oui, c'est paradoxal, mais en fait, les explications, selon les cas, évidemment. Il y a aussi des zones très urbanisées. Enfin bon, on connaît les multiples raisons, y compris chez nous, pour ces événements extrêmes.
D'où l'urgence de mettre en œuvre des solutions rapidement. Alors ce sera l'objet du prochain Forum mondial de l'eau qui se tiendra à Brasilia du 18 au 23 mars. Le thème justement c'est
oui,
partager
c'est
l'eau.
Sharing water, partager l'eau effectivement. C'est un sujet, on l'évoquait à l'instant avec les différents usages. C'est un sujet très important. Dès qu'il y a une ressource évidemment relativement faible, il faut organiser ce partage de l'eau entre la consommation d'usage quotidienne, l'hygiène, la santé, mais aussi les activités économiques et notamment l'agriculture, il faut bien se nourrir. Et pour un bon nombre d'ailleurs de ces pays, cet accès à l'eau de l'agriculture est fondamental parce que leur sécurité alimentaire, évidemment, en dépend. Donc le Forum mondial de l'eau de Brasilia, c'est le 7e du nom. Il se focalise effectivement sur ce partage de l'eau. Il faut d'ailleurs tout de suite signaler que le 8e est déjà en cours d'organisation. Il aura lieu à Dakar. Et donc c'est très important pour le continent africain, bien sûr, puisque là, on focalisera tout particulièrement les travaux sur des solutions qui concerne l'Afrique. L'objectif, encore une fois, c'est de se caler finalement sur les objectifs du développement durable, et notamment l'objectif 6, qui est celui relatif à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, et qui reste le premier de tous les défis, hein, puisque c'est celui de l'accès de chaque individu à une eau potable, d'une manière ou d'une autre. Les façons d'y accéder sont multiples.
Alors nous suivrons bien évidemment cette rencontre internationale dans C'est pas du vent. Merci Guy Franin d'être passé dans l'émission.
Merci beaucoup.
Restez sur RFI juste après le flash d'info. Nous serons avec le journaliste Émeric Caron qui crée avec d'autres personnes un nouveau parti politique, le Rassemblement des écologistes pour le vivant. Pour une écologie nouvelle, radicale et essentielle. Ça nous intrigue. On en parle juste après le flash d'info. À tout de suite.